L'euro de foot, une fontaine d'argent public. Au-delà des enjeux sportifs, l'euro de foot qui commence le 10 juin est une gigantesque pompe à finances pour les entreprises privées. 10 stades sont mobilisés pour ce championnat. 4 d'entre eux ont été construits au prix fort à Bordeaux, Lille, Lyon et Nice, et 5 autres ont été rénovés. Souvent surdimensionnées, ces enceintes représentent un coût total de 1,7 milliard d'euros, une manne pour les géants du BTP. Elles ont souvent été construites dans le cadre de partenariats publics-privés. Une part importante de l'investissement initial est assurée par un consortium privé, la ville lui versant un loyer annuel pendant une trentaine d'années. Cette formule s'avère particulièrement coûteuse pour les communes. Le Mans paye ainsi à Vinci 3,2 millions par an jusqu'en 2044 pour un stade sans rencontre régulière à la suite de la liquidation du club professionnel. Certes, l'UEFA qui organise ce championnat verse aux villes hôtes 31,5 millions d'euros, mais elle s'est vue octroyer par le gouvernement un superbe cadeau fiscal, les différentes entités organisant l'euro étant exonérées d'impôts, ce qui représente un manque à gagner de 150 à 200 millions d'euros. Les pouvoirs publics paient donc la facture, à laquelle s'ajoutent d'importants frais de sécurité et autres, entre guillemets, fan zones. Le gouvernement dit attendre de l'euro, entre guillemets, 1,24 milliard d'euros de surcroît d'activité pour l'État et les entreprises françaises. Cette somme est sûrement surévaluée pour vendre l'événement. Mais de toute façon, si l'État et les collectivités locales ont engagé les plus grosses dépenses, ce sont les entreprises privées qui vont en bénéficier. Hébergement, restauration, commerce de proximité, etc. Des sponsors escomptent également rafler la mise à l'instar de la Française des Jeux, dont le montant du contrat est secret, ou encore des dits, entre guillemets, partenaires globaux de l'UEFA, Adidas, Carlsberg, Coca-Cola, Continental, McDonald's, Orange et autres amoureux du ballon rond. Les médias qui ont acheté les droits de retransmission télévision comme TF1, M6 et beIN Sport ne sont pas en reste. Les mairies qui veulent diffuser un match sur écran géant doivent payer une redevance de plus de 1000 euros. Alors que l'Euro accueillait 16 équipes jusqu'en 2012, il en compte désormais 24 afin d'augmenter la manne. De façon générale, si les pouvoirs publics ont des dépenses, l'UEFA engrange des recettes, sponsoring, billetterie, droits de retransmission, pour un total de 1,9 milliard d'euros. Pour les grands équipementiers Nike, Adidas, Puma, l'euro de foot est un peu l'équivalent de ce qu'est Noël pour les producteurs de foie gras. Pour vendre des maillots et des baskets, ils se disputent le sponsoring des grandes équipes. Adidas serait ainsi prêt à quadrupler son contrat avec l'Allemagne à 1 milliard d'euros pour éviter que Nike ne le lui shippe. Cela donne une idée des marges escomptées. Un maillot de football se vend en moyenne 85 euros en boutique. Sur cette somme, les ouvriers qui les fabriquent touchent moins de 65 centimes, moins de 1%. Pour une paire de baskets Nike vendue 140 euros sur laquelle l'entreprise fait un bénéfice de 23,40 euros, le salaire des ouvriers ne représente que 2,40 euros. Et c'est encore trop pour les équipementiers qui délestent actuellement la Chine où les salaires ont augmenté. C'est, entre guillemets, la fin de la Chine à bas coût, se plaint Adidas, qui exploite quelque 400 000 salariés en Asie et préfère maintenant l'Indonésie, où le salaire moyen est de 102 euros mensuels, le Vietnam, 174 euros, ou le Cambodge, 115 euros. Le vainqueur sur le terrain ne sera pas connu avant le 10 juillet, mais dans les coulisses, comme pour toutes les grandes compétitions internationales, l'euro s'annonce d'ores et déjà comme une belle opération de transfert d'argent public vers les caisses d'entreprises privées. Michel Bondelet.